Émile Bergerat, l'alliance. Comme après Irène, sa femme, Jacques Benignac était assurément l'être qu'il aimait le plus sur la terre, puisque son père et mère étaient en paradis, Léo Rainville avait tenu à conduire au Havre ce cher ami des bons et des mauvais jours qui s'y embarquait pour le Nouveau Monde. Jacques s'expatriait. Il en avait assez de la vieille Europe, de Paris, de tout. « Je me suiciderai, » avait-il dit, « autant vaut que je m'en aille. N'est-il pas mieux de faire peau neuve que de se crever l'ancienne ?»« Mais pourquoi ne te maries-tu pas ?» lui avait suggéré Léon. « Tu es riche, jeune, solide et beau gars. Je te prêche l'exemple. Vois comme je suis heureux, moi, avec Irène. » « Ah, Irène, trouve-moi une autre, puisque tu me l'as prise, Irène. » « Il n'y en a pas deux, en effet, » acquiesçait l'époux triomphant. « Mais je ne te l'ai pas prise, Jacques, puisqu'elle n'était pas à toi. » « Nous la sommes disputés loyalement l'un à l'autre. » « Et c'est dans ma main qu'elle a laissé tomber la sienne, sans doute, parce que c'est moi qui l'aimais le plus. »« Mais il est probable. » Et Jacques était parti là-bas, sur ce steamer qui s'effaçait de l'horizon, avec son rouleau de fumée bise. Au retour dans sa belle villa du parc de Neuilly, qu'il habitait toute l'année, n'ayant qu'un pied-à-terre à Paris pour ses affaires, Léon n'avait pas trouvé Irène à la maison. Madame est partie chez son couturier, mais elle sera rentrée pour le déjeuner car elle attend monsieur. Elle a reçu sa dépêche du Havre. Il alla donc faire un tour dans sa serre, qui était fort belle, dont il était fier, et que le père Noirot, un vieux jardinier, entretenait à miracle. « C'est-il donc qu'on verra plus monsieur Jacques ?» disait Noirot, « et vous l'avez remarqué pour toujours. Quelle pitié que la vie ! Il aimait tant les fleurs et s'y entendait comme un de la partie. Ah, à propos, j'allais oublier que j'ai quelque chose à vous remettre. » Et relevant sa blouse, il prit dans la poche de son pantalon une boîte à allumettes, l'ouvrit d'un coup de pouce et en tira une bague d'or toute simple et sans pierreries qu'il tendit à son maître. « Mais c'est une alliance, » dit Rainville, « et même celle de ma femme. Où l'avez-vous trouvée, Noirot, et comment ?»« Bon, retissant le sable, pas trop sous le banc de la grotte. » « Oh, que c'est drôle. Et quand ça ? Ben, le lendemain matin de votre départ ? Merci, oh, elle doit la chercher partout. Pourquoi ne l'avez-vous pas rendue ?» Le jardinier regarda Rainville, baissa les yeux sur ses sabots et dit « Parce que je savais pas que c'était à elle et que me l'a pas demandé. » Sur ces entrefaites, Irène arrive de la ville et son mari s'inquiète de la mauvaise mine qu'il lui trouve. « Bonté divine, ma chérie, ses traits étirés, ses yeux creux, es-tu malade? Qu'as-tu donc fait durant ma courte absence ?»« Mais je t'ai attendu, » sourit-elle, en se laissant mollement embrasser et sans rendre le baiser. Déjeuner maussade, aux propos sans fond, sans suite vague. Léon lui donne à remarquer qu'elle ne lui a adressé aucune question sur l'embarquement du pauvre ami perdu pour eux à jamais, peut-être. « Est-ce que vous vous êtes quitté fâché, Jacques et toi ?»« Au contraire, » ricane-t-elle. Et elle se lève, énigmatique. Tout à coup, il songe à la bague remise par Noirot. Il l'a dans son gousset, cette bague. « N'as-tu rien perdu, Irène ?» Moi, mais où cela? Mais bon, dans le jardin ou ailleurs. Mais quoi donc? Interroge-t-elle, prête à tomber, glacée. Mais ton alliance? Ah, c'est vrai, tu sais cela. Je l'ai retrouvée heureusement au détour d'une allée, et la voici. Et elle la lui montre. Elle en a une autre au doigt. Une autre. D'abord, il ne comprend pas. Hébété, il la laisse regagner sa chambre, s'en aller. Et voilà que tout à coup, toute la drame, c'est clair. La grotte de la serre, le banc sous lequel a roulé la bague, ce départ désespéré de Jacques, il l'aimait encore. C'était pour elle qu'il venait presque tous les jours. Oui, oh, c'est cela, il a obtenu un rendez-vous d'adieu, le premier et le dernier moyen infaillible. Elle y est venue parce qu'elle est très bonne. Elle s'est défendue, mais l'homme est plus fort. Il l'a étourdie, il l'a pris, comment ? Oh, la bague perdue le révèle, par violence, mais un demi-viol. Et alors, comme elle ne la retrouvait pas, la bague, il a bien fallu la remplacer. C'était facile, toutes les alliances se ressemblent. Le temps de faire graver chez un bijoutier leurs deux noms réunis, Léon, Irène, et la date du mariage, 12 avril 1900, et voilà. Et elle peut dire ainsi qu'elle n'a rien perdu dans la serre. Oh non, rien, en effet, excepté la vie de deux hommes. Des bateaux de transit pour l'Amérique, il en part tous les jours de la semaine. Vite à la gare du Havre, il a le temps d'arriver au train. Oh, mais il allait oublier son revolver pour tuer l'infâme à bout portant dans l'oreille comme un chien enragé qu'on abat. L'arme est dans sa chambre, là-haut. Il monte la prendre, il s'arrête à la porte et il écoute. Ce sont des sanglots, des cris étouffés, le bruit d'une douleur immense. Non, Irène n'est pas coupable. Le misérable l'a prise, cosaqué, c'est évident. Et puis quand même, elle serait coupable. Il l'aime. Qu'on explique cela, jamais ne l'a aimé davantage, ni autant la malheureuse. Il redescend, sans revolver, dans le jardin. Il y tourne et vire, marchant sur les plates-bandes, butant aux arbres, pareil à un aveugle égaré en forêt, et son tourment se mêle à celui qu'elle endure, qu'elle doit endurer, de se douter qu'il doute d'elle. Que craint-elle de lui en ce moment ? Qu'il la tue ? Tuer Irène, Léon, mais c'est absurde, voyons. Le divorce, il ne faudrait plus alors, on les séparerait. Vivre sans la voir, l'entendre, l'embrasser, oh, cette conception lui échappe. Qu'est-ce que cela prouve, en somme, une bague perdue et remplacée ? Rien. Aussi tout. Et puis après ? Quand il aura supprimé Jacques, en sera-t-il plus mort qu'il ne l'est pour elle, et disparu pour lui dans ce nouveau monde où il s'efface avec le steamer et sa fumée fuligineuse? Car il y a encore ceci, que Noirot pouvait ne pas retrouver la bague ou ne pas la lui remettre, et que par conséquent, rien ne serait arrivé de ce qui arrive par hasard. Il suffirait que cela n'eût pas eu lieu. Eh bien, cela n'aura pas eu lieu. Le père Noirot est vieux, atteint de la goutte, et il rêve d'aller mourir dans son pays, en province. On lui enverra, sous un prétexte, avec une petite rente viagère. Le fait de la bague sera biffé des contingences, avec la preuve, la seule, de ce qu'il prouve. Quant au reste, tant pis. C'est peut-être d'un lâche. Mais l'affaire est entre lui et sa conscience. Il aime Irène et il ne veut pas qu'elle souffre. Elle doit être absoute puisqu'elle est belle. Oh, ces cris, cette lamentation derrière la porte. Non, 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 il va pour un lâche. Il sera ce lâche. Et que tout se taise dans son âme brisée. Amen. 8 jours après, le père Noirot, remercié, s'en retournait à Grasse pour y exhaler son âme au milieu des violettes et comme elle. La vie avait recommencé de couler paisiblement la villa Rainville entre ces deux pauvres êtres que rongeait en commun secret, qui s'aidaient à garder l'un vis-à-vis de l'autre comme des complices. Car Irène aimait son mari. Celui-ci a deviné juste. Elle n'avait succombé qu'à la force mâle de l'antagoniste, doublée du désir impérieux, loi des sexes à laquelle les héroïnes de la vertu ne se soustraient que par la mort ou le meurtre. Puis le temps fit son œuvre lente et sûre, et Irène oublia Jacques. Quant au mari, il était heureux lâchement, et on ne l'est ainsi que peut-être. Le 12 avril dernier, anniversaire toujours béni de leur mariage, au moment où, parmi les gerbes et les bouquets, Irène conduisait à table ses 12 convives, parents et amis, une auto s'arrêta à la porte de la villa et un homme en descendit qui, allègrement et d'un pas familier aux autres, vint droit au pavillon. C'était le 13e du festin. « Jacques !» Et Léon courut au vieil ami et lui ouvrit ses bras. « Toi, toi, mais quelle bonne surprise, et aujourd'hui encore, un 12 avril, notre fête !»« On en revient donc d'Amérique ?» avait jeté Irène, les lèvres serrées, mais sans émotion apparente, et en lui tendant la main gauche qu'il retint dans un check-end. Oui, vous voyez, madame, même au bout de 7 ans d'absence. Dans cette pression de main, il avait senti la bague, et il comprit ainsi qu'elle l'avait retrouvée. Aucun des autres n'était superstitieux et ne croyait au fatidisme des nombres, sauf Léon, qui en avait toujours confessé la crainte. Il l'avait d'enfance. À ses yeux, il était écrit que, selon la scène évangélique, l'un des convives d'une table qui en assemble 13 est marqué de mort. Au grand étonnement d'Irène, il s'égaya lui-même de sa crédulité et fit ajouter le couvert de Jacques à côté de sa femme même. On dîna 13. La rentrée en France de l'expatrié n'était que passagère. Il venait chercher à Paris ses papiers de famille et régler ses affaires pour se marier. Il comptait se fixer au Canada avec la famille de sa future, jeune fille charmante de Québec, et qui, d'après la photographie qu'il leur montra, ressemblait comme une sœur à Madame Rainville. « Enfin !» clamait joyeusement Léo en battant des mains. « Tu as donc trouvé une autre Irène !» Et la soirée s'acheva en une longue causerie, comme autrefois à la même place, dans la véranda ombreuse, pleine d'arômes, que baignait nocturne un ciel printanier. Jacques partit le dernier pour regagner l'hôtel où il était descendu. Mais à un moment où Léon marchait devant eux dans l'allée, il glissa de force un billet à Irène. Le rendre, comment ? Mais elle se jura de ne pas le lire. Elle le lut pourtant, car elle était femme. Il ne se mariait que pour en finir, comme dernier remède avant l'autre. Depuis 7 ans, il l'aimait toujours, il n'en pouvait plus. Il n'était revenu que pour la voir, une fois encore, la dernière, dans la serre. Et puis il disparaîtrait à jamais. Il en faisait serment sur la mémoire de sa mère. Et Irène alla au rendez-vous. Quelle est celle qui n'y fut allée comme elle ? La voici dans la serre à 3 heures de nuit, se dirigeant à tâtons parmi les plantes retombantes. Devant le banc, 2 bras l'enlacent en silence. C'est lui, Jacques.
Laissez, je ne suis venu que par pitié. Oui, j'ai senti que vous vous tueriez, que cette fois c'était vrai. Mais j'aime mon mari, il est bon, généreux et brave. Il m'a pardonné car il a tout deviné, et depuis 7 ans.
Vous en êtes sûre, Irène ?
Cette alliance n'est pas mon anneau nuptial, et je n'ai pas retrouvé l'autre.
Et il le sait ?
Je le crois.
Mais c'est donc un lâche ! 2 coups de feu répondent de la grotte à la question et à l'injure.
Irène et Jacques s'y précipitent épouvantés. Léon, mon Dieu!
Rainville vient de se brûler la cervelle, et du bras déployé au bout de la main entre le pouce et l'index, il tend l'alliance ouverte. Léon, Irène, 12 avril 1900, la vraie.